Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à deux pas du métro Berri-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en stock. On fait l'épisode 163. Ah, que le temps passe vite quand on s'amuse. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, je me plais à dire bonjour à Megan en studio. Bonjour Megan, comment tu vas? Bonjour Megan, comment tu vas?
Allô Jean-Michel, comment tu vas?
Non, mais t'as pas répondu à ma question.
Je vais bien.
Je suis très content de l'entendre. Mais je suis assez convaincu, sans vouloir y aller dans des certitudes, que tu vas juste un peu moins bien que Roxane qui vient nous parler de son sujet de prédilection aujourd'hui.
Star Trek?
Exactement. Ça se peut-tu? Que Megan soit bien, mais que ça ne mesure pas à côté de l'enthousiasme de Roxane de pouvoir venir présenter cette émission-là aujourd'hui?
Non, moi, je suis complètement hors sujet aujourd'hui. Je suis ici pour prendre des notes.
OK, c'est pour ça que tu me fais des gros yeux. T'es comme, je suis pas supposé être ici.
Non, non, c'est ça.
Non, non, mais t'es en onde quand même.
Je viens apprendre.
Et celui que je ne suis pas capable de mesurer dans son enthousiasme, notamment à cause de tout ce qui émane de ta personne.
Je suis immesurable.
Exactement, merci. Je préférais que tu le dises, que moi je te le dise, puis que là, tu finisses par faire comme comment ça, je suis immesurable.
Non, 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 j'assume mon ego.
Boris, de 1 à 10, comment es-tu? Quel est ton indice de bonheur au fait qu'on va venir parler de Star Trek aujourd'hui?
Je dirais 8.5.
C'est bien bas.
Je sais pas, si je disais 10, ça serait un peu weird parce que tu sais, y a rien qui peut battre ton enthousiasme à toi, me semble.
Ah, mais Roxane est comme à 12 là, ou 13.
Je suis comme vraiment over 12.
Elle a déjà bossé. Je savais pas que c'était ce genre d'échelle-là.
Mais en même temps,
je dirais B plus sur B.
4 étoiles et demie.
Ouais.
C'est pas une compétition. T'as le droit d'être à la même place que Roxane.
Ah non, non, mais c'est parce que je sais que je le suis pas à la même place que Roxane que je baisse mon enthousiasme. Pas que je le baisse, mais que je baisse la notation de 1.
Qui est aussi enthousiaste que moi? C'est ça la question.
C'est ce que je me pose tous les jours en lisant tes posts.
Jean-Michel?
Ah, wow, c'est vrai.
Oui, moi c'est un... Je build up. Je commence une émission toujours un peu comme dans un espèce de bonjour, je suis content de vous voir, c'est le fun et tout. Puis tranquillement, je décolle, puis là, je vire fou. Fait que d'ici la 50e minute de l'épisode, je vais avoir plafonné à 10. Là, tu vois.
Moi, je suis déjà en train de comme me retenir pour pas comme rire et giggler de bonheur depuis qu'on a commencé l'émission. Là, c'est un peu ridicule. Là.
Je trouve qu'il n'y a aucune raison valide que tu t'empêches ce plaisir-là.
Do
tu
it.
Boudes,
do it.
Non. Non, mais... absolument.
Fais attention, je vais juste rire tout le long. Ah, oh, OK, ça va bien aller.
Oh, wow.
On commence une belle aventure.
T'as un core, t'as un sound, un core. On va utiliser le mot core aujourd'hui parce que t'es pleine de dilithium crystals.
Absolument.
Tu es l'énergie, tu sers à voyager le cosmos.
Exactement,
c'est
moi.
Tu es le centre d'un grand véhicule interstellaire, Roxane.
Oui, absolument. Je vais pas dire non, je suis vraiment excitée.
Je veux d'abord avant tout... On décolle. Je voulais d'abord et avant tout te remercier pour la structure de l'émission parce que ce que j'ai constaté à quand t'as fait la proposition, ben premièrement, je l'ai pas vu. Puis après ça, t'as comme fait, oui, mais j'ai un plan. J'étais comme, oh shit, on a un plan. C'est très agréable pour quelqu'un qui navigue vraiment à l'étoile. Là. J'ai, la règle générale, je me fais pas de plan. Mais j'apprécie aussi que t'as décidé de commencer l'émission en disant, pas tout le monde connaît ça.
Pas tout le monde connaît tout de Star Trek. Pas tout le monde est littéralement des encyclopédies.
Moi, j'ai tendance à traiter tout le monde comme si c'était juste inculqué très rapidement. Megan, toi, là...
Mais je suis ici pour vous ramener les pieds sur terre, parce que moi, je connais presque rien.
C'est
là.
À ça que tu sers, merci.
Je vais vous dire. Puis c'est quoi, ça?
Mais tu sais, il y a quand même une bonne cinquantaine d'années de contenu à Star Trek.
Oui.
Même s'il y a des petits trous une fois de temps en temps, c'est quand même 50 ans de séries, de films. Puis c'est pas tout le monde qui a tout vu. Tu sais, il y a des gens qui ont grandi avec Next Generation, mais qui ont jamais, par exemple, regardé Deep Space Nine ou Voyager. Donc, je pensais que ça serait pertinent de juste faire une espèce de survol de tout ce qui a été fait dans les 50 dernières années pour qu'on parle un peu de la même chose quand on va se parler. Donc, je pense que c'est pertinent.
Ça me semble honnête.
Ouais. Absolument, celui.
Puis souvent, on fait la différence entre le fan diehard de Star Trek puis la personne qui connaît rien du tout, mais on oublie qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entre deux.
C'est absolument. Comme... Puis, tu sais, personnellement, moi, ça a été... Star Trek est un grand projet. T'sais, c'est pas quelque chose que tu décides du jour au lendemain de commencer, puis que tu te dis, OK, c'est beau, mais ben, en une semaine, on a tout binge-watché. Premièrement, ça se binge-watch très mal.
Mais je pense que c'est plus d'heures qu'il y a d'heures dans une semaine.
Oui, le corpus est quand même assez.
Il y a à peu près une vingtaine d'épisodes par saison et les plus longs ont 7 saisons chacun. Fait que rapidement, un petit calcul, là, on doit avoir à peu près une trentaine de saisons de Star Trek plus les films. Ça fait beaucoup d'heures d'écoute.
Mais aussi pour bondir sur ce point-là, c'est que Star Trek n'est pas. Je sais pas si je fais si j'aide la cause ou je fais un peu tard, mais Star Trek, ce n'est pas quelque chose qu'on écoute pour se distraire, ce n'est pas quelque chose qu'on écoute pour satisfaire une curiosité intellectuelle ou une curiosité culturelle. C'est un long processus d'altération et, à mon avis, d'amélioration de soi. Ça doit être un long processus qui altère très tranquillement et légèrement à la fois ta personnalité pour t'amener à devenir un meilleur humain. C'est vraiment ça. Ça ne peut pas être consommé rapidement parce que la transformation s'exercerait pas.
C'est ça. Il y a un processus de réflexion derrière l'écoute de Star Trek qui, je pense, est important. Il y a quand même des sujets vraiment difficiles qui sont abordés. Même dès la première série, qui est la série originale, celle avec Captain Kirk, avec Spock, que la plupart des gens connaissent dans l'imaginaire collectif, c'est quand même assez fort, la figure de Spock. Mais même dans cette série-là, qui est un petit peu, qui est jouée un peu de manière comique, poussée, un petit peu quiétaine des fois, il y a quand même des réflexions super intéressantes qui se développent autour de ça, puis c'est des trucs qu'on a besoin de digérer, c'est des trucs auxquels on a besoin de penser après un épisode. Ça se fait très mal en binge-watch typique des années 2010 et plus, je pense.
Ben, c'est pas la même formule non plus.
Pas du tout, ouais. Pas du tout. Je sais pas si vous vouliez commencer le tour d'horizon, parce qu'on on en a parlé de quelques séries déjà, mais on avait décidé de faire une espèce de survol au niveau de la chronologie de diffusion, c'est-à-dire de l'ordre dans lequel les séries ont été diffusées à la télé, parce que, et là, petit spoiler, l'ordre de diffusion n'est pas l'ordre chronologique diégétique, puis pour essayer de ne pas mélanger tout le monde, on a décidé de commencer dans les années 60 et d'aller jusqu'à aujourd'hui avec Discovery, qui vient tout juste de se terminer la semaine dernière. L'autre semaine d'avant, je me souviens plus.
La semaine d'avant.
D'avant.
En fait. Et qui a aussi compliqué diégétiquement les trucs.
Oui.
En fait, ça nous brasse un peu les cartes.
Oui, ouais. Exactement. Donc, comme on l'a déjà mentionné, puis vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment parce que moi, je peux continuer là-dessus pendant des années, mais la première série qui est parue à la télévision, c'est The Original Series. En fait, il s'appelait simplement Star Trek au départ, mais bon, avec les autres séries qui ont suivi après, on a cherché à la distinguer en l'appelant The Original Series. Mm-hmm. Et c'est celle avec Kirk, Spock et, en fait...
La série que vous connaissez probablement, c'est celle qui vient en tête.
C'est celle... En fait, c'est les mêmes personnages que les films qui sont parus de 2009 à 2013. Donc, c'est ceux qui sont les plus connus dans l'imaginaire collectif.
Ouais, de, ça date de 66 à 69.
66 à 69. Et bon, il y a eu seulement 3 saisons. Mm-hmm. Et une grande, grande pause entre The Original Series et la prochaine série originale qui est The Next Generation. Et entre les deux, un espèce de remix en série animée. De la série originale. Et donc...
Une continuation, en fait. Puis il y a un... C'est un grand ignoré. Il faut le mentionner,
que
ça, que la série animée, en fait, apporte beaucoup de trucs, notamment des trucs qui ont été canonisés dans la série. Si je me rappelle bien, je pense qu'il n'y a aucun moment dans la série originale où Kirk dit « Beam me up, Scotty », qui est une des grandes phrases reconnues du canon de Star Trek. Ce n'est jamais dit dans les 3 premières séries, mais parce que pour la majorité des acteurs, les voix étaient assurées par les mêmes... Les voix des personnages animés étaient assurées par les mêmes personnes qui interprétaient les acteurs. On a encore ce verre d'oreille de William Shatner qui dit cette phrase-là, mais elle apparaît nulle part dans les 3 premières saisons.
Exactement. Donc, c'est quand même une série qui a été importante. Elle est sortie un peu plus tard, donc après la fin, c'est en 73 ou 76. Faudrait juste vérifier. Parce que
je vais le faire parce que effectivement, je ne m'en rappelle plus. 73.
73. Ouais. Donc, en 1973, on a la série animée qui sort. Et bon, c'est ça. On reprend le même équipage que celui du Enterprise dans la série originale. Les voix des personnages sont pour la plupart les mêmes que les acteurs qui ont joué dans la série originale. Donc, c'est vraiment une continuité.
Même scénariste aussi pour la plupart. DC Fantana fait des épisodes de la télésérie animée aussi. Donc, il y a quand même aussi une continuation. L'équipe est un peu restée, mais c'est très étrange les circonstances dans quoi qui ont mené à la fin de la 3e saison. C'est une télésérie qui a eu beaucoup plus de succès en syndication que sur le moment. C'est vraiment, ça s'est bâti et ça s'est construit autour des reprises, le fandom de Star Trek.
Absolument. Puis c'est drôle parce que ça, en fait, Star Trek arrive à peu près au même moment que Doctor Who dans ces années-là. Donc on a l'espèce de, c'est 3 ans plus tard que Doctor Who, on a cette espèce de boom là de la science-fiction à la télé, mais en même temps, ça fonctionne comme pas aussi bien qu'on pensait. Donc, historiquement parlant, je trouve que les années 60 sont une décennie intéressante pour la science-fiction à la télévision, là, tout le moins.
La science-fiction humaniste.
Oui,
c'est ça qui vaut la peine de souligner. C'est le fait que Doctor Who était vraiment une espèce de grand... On se libère du temps, on se libère de l'espace, on regarde l'humanité comme un laboratoire, pratiquement. Là, le personnage du Docteur est vraiment fasciné par l'humanité. Et va de même aussi avec Star Trek, qui, eux, avec l'équipage, sont plutôt dans l'exploration des paradoxes éthiques, les trucs de comme... Ben, regardons, mettons... Un équipage, bon, on en a assez parlé, là, mais l'équipage original de Star Trek était international. En fait, il y avait des gens des communautés russes et japonaises, malgré qu'il y avait des conflits de guerre à ce moment-là. On a tenté de prendre l'humanité, la mettre dans un vaisseau, puis dire qu'est-ce qu'on est capable de leur faire comme test? Qu'est-ce qu'on est capable de leur faire passer comme test par rapport à la moralité, par rapport à l'éthique, et ainsi de suite?
Exactement, parce qu'un des thèmes centraux de Star Trek, c'est le paradoxe entre soi et l'autre. Comment on vit avec l'autre, comment on intègre l'autre sans toutefois l'assimiler. Donc, ça fait partie de ça. Et quand même, on peut souligner le premier baiser entre une femme noire et un homme blanc à la télévision, entre Kirk et Uhura, qui était une femme noire qui était sur le bridge du Enterprise, qui est quand même assez incroyable dans les années 60.
Qui a failli pas avoir lieu aussi.
Donc, culturellement, je pense que c'est une série qui est incroyablement importante, mais comme tu le dis, qui a eu beaucoup plus d'impact après sa diffusion que pendant. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur Original Series ou la série animée avant qu'on fasse un petit bond de... une dizaine d'années dans le temps.
Moi, j'avais quelque chose, j'ai fait une recherche vite, mais pour savoir combien d'heures que ça prendrait pour tout écouter. Puis même là, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui a fait le calcul avec la série animée et Discovery, parce que le calcul a été fait en 2012. Mais pour ça, pour le reste, donc ça ferait à peu près... je vais vous donner le chiffre. Il y en a une couple. Voyons, c'est où? En fait, ça ferait 24,7 jours, totalisant 593,5 heures wow. environ.
Disons que ça fait...
Ça dépend à quelle vitesse tu changes les DVD, là, parce ouais, que ça oui. peut être plus long.
C'est ça, mais maintenant, on peut les écouter sur Netflix. Je pense qu'ils sont tous sur Netflix, sauf Discovery.
Yep. Ouais.
Fait que on plus besoin de changer de DVD, mais quand même, ça fait un mois occupé. Puis ça, c'est continuel, le 24 jours continuel. On prend
oui,
pas...
24 heures sur 24, c'est
puis
pas de break.
À mon avis, c'est pas... C'est irresponsable.
C'est pas comme ça, ouais.
C'est
ouais.
pas une belle façon, c'est non. pas à l'instar de par exemple des gens qui veulent faire l'expérience transcendantale de lire à la recherche du temps perdu ou Finnegan's Wake là, si ça tente de vraiment prendre des drogues.
Mais de la même manière, lire à la recherche du temps perdu, tu fais pas ça, tu binge watch pas Proust là, tu binge read
oh boy,
pas Proust.
Non.
C'est ça je veux dire,
c'est quelque chose que tu fais, ça fait partie de ton quotidien éventuellement là.
Exactement, un épisode ouais. de Star Trek par soir.
Moi, c'est ça ouais. que j'aime faire.
Jusqu'à l'illumination. C'est comme la descente, là, comme, c'est quoi? C'est entre l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Si tu marches les Champs-Élysées tout nu, tu devrais arriver à la fin avec une espèce de grande révélation sur l'humanité. Mais si tu écoutes un épisode de Star Trek par jour jusqu'à temps que tu aies complété le corpus au grand complet, tu en sors un être pluridimensionnel.
Ben, ça prendrait à peu près 2 ans.
Make sense. C'est à peu près 2 ans, c'est une bonne...
On parlait tantôt de grandes séries de science-fiction des années 60, puis il y avait aussi Twilight Zone et
Absolument.
Outer Limits, puis, qui ont beaucoup influencé Star Trek, puis je pense que Star Trek est aussi conçu un peu comme une anthologie.
Ouais. Mm-hmm.
Et donc, effectivement, on binge-watch pas une anthologie.
Non, t'as absolument raison. T'sais ça, on se garde. Puis en plus, c'est qu'il faut laisser l'espace pour respirer, le cerveau, ouais, et toi être capable de tout... Je veux dire macérer, là, mais c'est un mot un peu...
Mais de bien assimiler toutes les informations que tu viens de voir, là.
Et aussi de... D'y réfléchir, exactement.
Mais je pense que macérer, c'est un bon mot, en fait.
Macérer, c'est correct.
Moi, je trouve que c'était un
mariner.
Bon mot.
Mariner?
Ouais, c'est un peu... C'est...
Parce que macérer, c'est pour préparer à la cuisson, mais ouais. mariner, c'est pour...
Préparer des pickles.
Non, mais ça te transforme, parce qu'un pickle, c'est un concombre que t'as mis dans de la marinade.
Je suis d'accord, ouais. je suis d'accord. Ça va te transformer de concombre
à pickle.
Tu pourras
jamais plus revenir oui. dans ton état concombre avant.
Nitpicking de métaphore, j'aime ça.
Ouais, absolument.
C'est Star Trek in
Zapp. Star Trek, c'est le comment t'appelles ça, un brine, une saumure
oh, wow.
Pour l'humain. Voilà. sur ce, on va passer quand même à la prochaine série qui arrive plusieurs années plus tard, qui est The Original Series, pas The Original non. Series, on retourne dans le passé, The Next Generation. Qui est la série qui se passe, c'est canoniquement une centaine d'années après The Original Series, je pense.
Quelque chose comme ça, ouais.
C'est ça, c'est compliqué parce que...
Il y a des retours dans le passé, mais on va se tenir à l'essence, non, ça se passe.
Mais même pour les personnes qui connaissent, qui sont un peu moins familières avec Star Trek, c'est très important de savoir. Quand on me l'a appris, moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait comme « Ah ouais, les Stardates ne fonctionnent pas ». Ce n'est pas une mesure de temps fonctionnelle. Donc, on ne doit pas essayer d'en faire une ligne du temps cohérente. Mm. Les épisodes de règle générale commencent avec une déclaration du capitaine du vaisseau en disant Stardate et il y a une série de chiffres. Ces chiffres-là ne sont pas vraiment, ils sont pas significatifs de grand chose dans le temps.
Ouais, mais quand même, moi je me base plus sur le fait, par exemple, de l'âge de Kirk dans The Original, de Next Generation ouais. versus son âge à la fin de The Original Series. C'est un peu comme ça que je fais le calcul dans ma tête, plutôt qu'en basant sur les Stardate là. C'est vraiment une approximation.
Je fais confiance à ton expertise.
Ah mon Dieu, merci. Et donc, c'est ça, on a The Next Generation, c'est celle avec Capitaine Jean-Luc Picard. Puis là, je prononce son nom très francophone, alors que c'est Picard parce que le français n'existe plus.
Tu le prononces comme il faut, c'est plutôt oui. ça la fin.
Voilà, c'est ça le problème.
Merde!
C'est celle avec le fameux mime dans lequel Patrick Stewart, facepalm, avec, c'est ça, c'est le mime très connu avec Patrick Stewart. C'est celui où on a... En fait, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que on a un personnage Klingon qui est sur le vaisseau.
Mm-hmm.
Alors que, bon, dans les Original Series, c'était encore un peu des espèces de il était pas en guerre contre les Klingons, mais c'était tendu.
Ouais, c'était la race qui servait d'ennemi.
Exactement.
Là, si on peut dire.
Exactement. Ouais. C'était l'ennemi central de The Original Series. Maintenant, on voit que, bon, une centaine d'années plus tard, à peu près, on y a quand même des progrès qui ont été faits. Worf est quand même le plus intégré des Klingons dans la Fédération à ce moment-là, mais quand même intéressant de voir comment la Fédération permet à la fois à Worf de s'intégrer en tant que Klingon, mais aussi de s'intégrer dans la Fédération elle-même et non pas juste en marge de la Fédération. Donc voilà, il y a tout plein de choses intéressantes qui se passent dans Next Generation qu'on pourrait énumérer pendant des heures, dont en fait la barbe de Riker qui change la saison à la saison 2. Shout-out à Catherine, notre amie qui est à Londres, qui aime beaucoup Riker et qui aime particulièrement Will Wheaton.
Avec raison.
Avec raison, Will Wheaton, qui est le Wonder Child du Enterprise, qui est un personnage intéressant dans la mesure où tous les enfants auraient voulu être Will Wheaton, c'est-à-dire assez intelligent pour se ramasser à 13 ans sur le plus grand vaisseau de la Fédération.
C'est une Mary Sue, là.
Voilà.
Dans tout ce qu'il y a de plus positif à dire par rapport au terme, je veux dire, c'est très...
Oui, exactement. Et il y a des très, très beaux sweaters. Voilà. Donc, tout est dit. Hein? Mm-hmm. Il n'y a rien d'autre à dire. The Next Generation, ensuite, bon, il y a 7 saisons Next Generation. Oui. Pas toutes aussi bonnes les unes que les autres. C'est un peu inégal, des fois.
Mais c'est là où il y a quelque chose d'intéressant, parce que Next Generation est la série populaire.
Oui.
C'est celle qui est, tu sais, c'est ça, comme tu as dit, il y a une production de mimes qui sont autour. C'est une série qui est immensément à succès. Les saisons fonctionnaient, ça cartonnait au bout. Il y a eu des très grands personnages. C'est une série aussi qui continue la tradition. C'est le Next Generation, c'est, à mon avis, c'est pas anodin comme expression. Non. Il y a vraiment la génération qui a été élevée sur Original Series reprend le flambeau et dit, là, je veux... On veut que cette utopie-là persiste. On va la refaire. Mm-hmm. Je pense notamment au personnage de Whoopi Goldberg.
Oui.
Qu'elle a insisté d'être présente sur le plateau de tournage de Next Generation, qui est à créer un personnage, parce qu'elle se rappelait du moment où elle a vu Uhura, que tu mentionnais tantôt, à la télévision, et qu'elle est allée voir sa mère en disant « Maman, il y a une femme comme nous à la télévision et ce n'est pas une bonne. »
C'est ça. Ce n'est pas une servante.
Oui. Ouais. Et cette idée-là que Next Generation est vraiment une extension du projet et comme la promesse utopique rendue réelle. Non, on croit encore à ça. Et que l'imaginaire a persévéré, et même que dans l'imaginaire populaire, Star Trek Next Generation existait, mais c'est aussi à peu près à ce moment-là où il y a des innovations technologiques qui ont apparu, qui émulaient les émulations technologiques, qui émulaient le progrès technologique dans Original Series. Fait que c'est vraiment un moment important, cette série-là. Mais, je reviens à ce que tu dis, parce que c'est très pertinent, elle n'a pas une super bonne moyenne au bâton.
Non, vraiment pas.
Mais, c'est parce qu'il y a des très, très bons épisodes. L'introduction des Borg est absolument formidable. Il y a vraiment des moments forts dans cette série-là, mais c'est inégal.
Oui, il y a Data et son chat.
Il y a des... Pardon?
Data et son chat.
Ah, j'ai rien compris de ce que tu avais dit.
Moi, j'avais compris, il update son chat.
Ouais, oui, ben, il y a un moment où ce qu'il fait.
OK, il donne
le spot.
Spot, exactement.
Ouais. Oui. C'est une dimension qui est intéressante. Je veux dire, c'est là où on a officiellement... En fait, diégétiquement, le premier androïde qui... C'est parce que là, je suis en train de dire ça. Ish, à cause de Discovery, qui vient de briser mon cœur. Mais Data est officiellement le premier androïde. Ish. Est-ce que Lore est arrivé en premier ou c'est Data? Lore étant le frère de Data. Peu importe.
Ouais, Lore arrive en deuxième, je pense.
Je pense. Et donc, Data qui est l'espèce de pan... technologique de Spock dans The Original Series, qui en fait essaie de, en tant que robot, essaie de découvrir c'est quoi l'humanité, et il adopte un chat, donc ça donne lieu à des petits moments formidables dans lesquels Data essaie d'enseigner des choses à son chat, puis c'est vraiment beau. Mais aussi des choses un peu moins cool, comme l'épisode où ils font de la déévolution. Est-ce que tu te souviens quand ils font l'espèce de évolution inverse, fait qu'ils sont en train de comme redevenir à l'état de comme cellule dans le vaisseau. Écoute, c'est mauvais, c'est tellement mauvais.
Ça a pas de l'air mauvais de la façon que tu
dis. Non. Mais c'est comme l'épisode de Voyager où Perry devient un espèce de salamandre.
Mais il est correct cet épisode.
Non, c'est mauvais.
C'est tellement
pas
déni,
bon
Jim.
C'est pas bon Jim. donc
préparez-vous, parce que bon, il faut ouvrir en parenthèse, on va faire un épisode modulaire pour chacune de ces séries-là. Vous exact. Devez savoir que ce projet-là est tentaculaire. Je vais vous revoir au tournant par rapport à ces épisodes-là.
Super.
Fermeture de la parenthèse.
Il y a aussi le fameux épisode dans souvent dans beaucoup de séries qui revient où tous les personnages se mettent à avoir du sexe les uns avec les autres.
Ouais, ben ça c'est effectivement, je vais m'allier à toi là-dessus, Boris. Tous les épisodes sur la planète du plaisir, Rigel, ouais. sont des mauvais épisodes. Et
ah, oui.
C'est probablement le seul très mauvais épisode de Deep Space Nine, c'est celui qui se passe sur la planète du plaisir, Rigel.
Ah oui, oui, non, mais ça, c'est canoniquement mauvais.
Rigel, c'est pas la même chose. Passe, ça fonctionne juste pas. Sauf que tout le monde est en costume de bain.
Oui.
Hein, Catherine?
Hein? Bon. Mais, je veux dire, ce qui est intéressant, Voyager, ils l'avaient pas du tout, cette planète-là, mais ils ont réussi quand même à recréer... une espèce de station balnéaire sur le holodeck. Enfin, bref. Donc, Next Generation est la plus connue, mais aussi un peu inégale dans la qualité de son contenu. Mais ça vaut la peine quand même, là, je veux dire. Mm-hmm. Je veux dire, tous les épisodes méritent d'être vus, ish. mais c'est un peu inégal. Donc, voilà. Ensuite, chronologiquement parlant... Uh-huh. On arrive aux deux qui se chevauchent un peu, c'est-à-dire Deep Space Nine et Voyager. Les deux se chevauchent, en fait, à la fois au niveau diégétique et dans la diffusion à la télévision. Ça se passe, les deux débutent en même temps à peu près que la fin de Next Generation. Mm-hmm. Deep Space Nine sort un petit peu de la formule originale des séries, en fait, parce que Deep Space Nine n'est pas un vaisseau, c'est une station spatiale qui est fixe. Et là, Jean-Michel fait des bruits de bonheur l'autre côté de la...
Je garde tout ça pour l'épisode sur Deep Space Nine.
Mais on peut en parler quand même un petit peu parce que c'est intéressant. Deep Space Nine est une série qui explore des thématiques... mille fois plus sérieuse que ce qui avait été exploré dans The Original Series et Next Generation combiné, si tu veux mon avis. L'espèce de quête religieuse, en fait, même la paternité, c'est des sujets qui sont vraiment, vraiment présents dans cette saison-là et qui sont, en fait, qui sont des fils conducteurs de toutes les saisons à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est en fait, Voyager et Deep Space Nine sont... dans une classe à part en termes de fil conducteur et de profondeur des réflexions qu'ils cherchent à aller chercher. T'as pas l'air super d'accord.
Non, je suis très d'accord avec ce que tu dis.
Mais oui, donc Deep Space Nine, ce qui est intéressant aussi, c'est que le capitaine, qui est pas un capitaine au début, mais enfin bref, il devient un capitaine, c'est pas important. Pour moi, c'est pas un capitaine, mais c'est un capitaine. Sisko est le premier capitaine noir à la télévision, dans les séries de Star Trek, donc mm-hmm. C'est super intéressant aussi.
C'est un fan de baseball,
parle toujours de baseball. Et en fait, devient malgré lui une espèce de prophète religieux, ce qui est un peu étrange parce que, bon, prophète religieux d'une société qui n'est pas la sienne en plus.
Ouais.
Puis ça se passe pendant une grande guerre entre les Cardassians et les Bajorans. Donc, il y a ces espèces de fils conducteurs-là derrière qui sont... assez prenant, assez vif aussi. Donc, c'est une série qui est, à mon avis, plus égale que The Next Generation.
Excellente main au bâton pour cette série-là.
Oui, mm-hmm. absolument. Il y a des excellents épisodes. Mais on va passer, parce que là, le temps file, à Voyager, qui est... Je me fais pas appeler Roxanne Janeway juste pour le fun. C'est quand même ma série préférée.
Il y a du fun, c'est un peu là-dedans.
Il y a quand même du fun.
Oui, c'est ça.
Il y a toujours un peu de fun dans tout, mais Voyager aussi sort du lot. Même chose que Deep Space Nine, mais pour une raison différente. C'est-à-dire que ce qui arrive avec Voyager, c'est qu'il se retrouve, en fait, à cause d'une anomalie dans l'espace, à 70 000 années-lumière c'est quoi le Alpha Quadrant? C'est l'espèce de...
C'est le cadran exploré, en fait.
Voilà, le cadran exploré par la Fédération, où, bon, ils savent un peu ce qui se passe autour de là. Donc, ils se retrouvent à 70 000 années-lumière de, en fait, de toute trace de la Fédération. Donc, ils sont vraiment tout seuls. Donc, on parle d'exploration spatiale, puis de partir sur un nowhere à un tout autre niveau, quand même. Et c'est pour moi la série qui essaye d'explorer le plus de thématiques morales. À chaque épisode, c'est un peu changé, tu sais. C'est quelque chose que tu peux pas écouter, comme tu disais, un à la suite de l'autre, parce que bon, dans un épisode on parle de suicide, dans l'autre on parle de comme la mort de tout un équipage. On parle, tu sais, c'est toujours lourd, c'est toujours difficile, mais c'est quand même super intéressant. Et c'est la première capitaine femme de l'univers de Star Trek, Catherine Janeway, qui est formidable, quoique un peu inégale dans la manière dont elle est écrite un peu plus tard dans les séries, mais moi je l'aime de tout mon cœur.
Et si tu me permets, ça vaut quand même la peine de souligner le fait que tu as déjà fait une très belle présentation, pour ne pas dire une belle exposition, des raisons de ton affection pour Voyager à l'épisode, à l'émission Les Amazones, qui avait un épisode dédié à Star Trek.
Oui.
Puis ta présentation, moi, je la trouve extrêmement complémentaire. Tu as vraiment fait une belle livraison pendant cet épisode-là. C'est un autre épisode que tu as aussi un peu mené de main maître. Prends le temps ici de mettre une petite note en bas de page pour les gens qui sont en train de l'écouter. Et oui, je déclare la note en bas de page radiophonique, quelque chose qui existe.
Mettra ça dans ta thèse.
Exactement. aller consulter cette petite archive-là de une heure qui est vraiment extraordinaire, parce que ça vaut... J'aimerais ça que tu puisses refaire cette heure-là ici, mais on va comme plier le temps, puis on va dire, allez regarder ça, voilà. Écouter ça, puis revenir, là, parce que t'as des très belles raisons d'avoir autant de reconnaissance envers cette série-là.
Outre le fait que Catherine Janeway aime beaucoup le café, comme tous les universitaires, mais en fait, c'est ça, Voyager est quand même une série qui place, qui déplace un peu de l'espace de la Fédération, qui s'en va dans l'inconnu complètement et qui revient un peu à la base de l'idée de Star Trek, c'est-à-dire l'exploration, de découvrir des nouvelles civilisations. Donc, on est dans l'essence pure de Star Trek avec Voyager. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore cette série-là. Puis là, c'est terminé, Voyager. Qu'est-ce qui se passe après Voyager? On retourne dans le temps. Il y a un petit bout où il n'y a pas du tout de série et on arrive avec Enterprise en 2001. Voilà, 2001. Enterprise se passe chronologiquement avant The Original Series. Donc, dans la diégèse, Kirk n'est même pas né encore. C'est le premier Enterprise original qui est là avec le capitaine Archer, qui est en fait le premier capitaine à être sur un vaisseau qui peut aller à la vitesse warp, donc qui peut voyager, c'est la vitesse de lumière, je pense. Et donc, ça se passe au tout début de l'exploration spatiale. La Fédération n'existe pas encore. Donc, c'est un peu poser les briques de ce que va devenir la Fédération. Donc, c'est un peu... C'est intéressant, en fait, comme réflexion de voir comment on peut arriver à la Fédération, qui est cette espèce de système politique vraiment utopique, là, et comment on peut, en fait, voir les bases de ce que va être le système de la Fédération et comment vont être les bases d'une espèce de multiculturalisme intersidéral qui va devenir Star Trek plus tard. Donc, c'est une série qui est super intéressante, qui n'a pas eu énormément de reconnaissance, à la fois au niveau des fans et... en termes de succès économique qui...
Mais ce que tu dis, je trouve que c'est très... c'est, à mon avis, la caractéristique très importante, c'est qu'avec Enterprise, on avait la possibilité de comprendre la transformation de l'humanité jusqu'à l'utopie qui représente Star Trek.
Oui.
Malheureusement, bon, l'échec commercial a fait en sorte qu'on a eu à interrompre. C'est évident que sur cette saison, on aurait pu... Okay, cette saison, c'est à peu près le canevas convenu pour une télésérie de Star Trek. On aurait pu voir ce dévoilement-là, voir cet aboutissement-là de l'humanité à quelque chose de mieux que qu'est-ce qu'elle était à la découverte du Warp Drive. C'est ça, c'est qu'il nous manque 4 saisons. On doit combler ce vide-là. Puis tranquillement, actuellement, je pense qu'ils sont un peu en train d'essayer avec Discovery de, non pas de la manière aussi linéaire et évidente que Enterprise s'amorçait ou avait comme déclaration de faire. Donc, sa déclaration d'intention, Discovery va déjà quand même placer des trucs pour dire, ben, cet événement-là est marquant, cet événement-là va avoir été important pour ce long processus d'angélisation de l'humanité, si je peux dire.
Oui, exactement. Puis, comme tu l'as dit, Enterprise a été arrêté après
3 saisons.
Je pensais que c'était 4.
Ah, peut-être que c'est 4, puis c'est moi qui ai juste...
J'ai 3 dans la tête aussi, mais je peux me tromper.
Peut-être que je me trompe. J'ai le droit de me tromper des fois.
Absolument. Non, t'as raison, en fait, c'est 4.
C'est 4 saisons, voilà. Jamais remettre en question mes connaissances de Star Trek.
On n'a jamais fait ça.
Non, mais moi, je les ai remises en question.
Oui, exactement. T'as pas le droit... de te douter.
Voilà, jamais. Exact. Jamais.
Ça fonctionne pour toi aussi, Boris.
Socrate serait pas super content. Mais bon, parlons pas de Socrate, ça va dégénérer. Donc, en fait, Enterprise se termine en 2005. Puis après, cette espèce d'échec commercial-là, bon, la franchise Star Trek sombre un peu dans l'oubli, en fait, de la...
Ben, il y a quand même une continuation au niveau des films. On a dit qu'on parlerait pas des franchises de films.
4 ans plus tard, quand même, ce qui n'est pas si mal. Mm-hmm. La franchise des films, cependant, reprend l'idée de Star Trek, mais va dans un univers parallèle, donc prend l'idée, les personnages, mais part dans une direction complètement différente, avec beaucoup de motos et beaucoup...
Et du Beastie Boys.
Mm-hmm. Donc ça, je pense que c'est une autre discussion complètement, mais...
Ah, ben, c'est... à mentionner les films, tu parles des films de J.J. Abrams?
Oui.
Ouais, c'est ça, c'est Star Trek Go Star Wars, parce que J.J. Abrams, c'est un fan de Star Wars, mais il connaît absolument rien à Star Trek.
C'est son audition pour Star Wars.
Ouais, c'est ça, c'était son audition.
Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais ça, c'est un peu aussi de d'évincer la part de Orky et Kurtzman, qui sont eux autres probablement les personnes qui réfléchissent le plus à Star Trek. Derrière ça, je parle des deux scénaristes qui ont aussi travaillé avec J.J. Abrams sur Fringe, mais qui sont aussi... toujours actif. C'est toujours ça avec Star Trek, c'est que ça prend des personnes comme Ronald D. Moore, qui a été le créateur du reboot de Battlestar Galactica, est un des plus importants scénaristes quand on vient de parler de Klingon. Il y a toujours des personnalités qui servent de cœur à ces projets-là. Fait que J.J. Abrams, oui, peut être cette espèce de marionnette qui s'est amusé à tout éclairer comme c'était un Apple Store, mais à mon avis...
Je parle en termes d'esthétique aussi.
Oui, mais c'est exactement ce que je dis. Il y a all over the place.
C'est vraiment juste dans la réalisation, parce que là,
puis aussi le dernier qui a été réalisé par, mon Dieu, son nom m'échappe.
James Wan.
Qui a en fait réalisé des Fast and Furious. Et ça paraît, moi, honnêtement, le dernier film de Star Trek, j'ai dû comme le mettre sur pause 3 fois parce que ça me stressait tellement il y avait de l'action. alors que normalement, Star Trek, je vous le dis d'avance, si vous êtes des fans de Star Wars, c'est complètement un changement de vie. C'est d'écouter Star Trek. Il se passe pas grand-chose la plupart du temps pendant un épisode de 45 minutes. Fait que c'est une espèce de calme quand on écoute des épisodes de Star Trek en général, ce qui n'est pas du tout le cas avec les films du reboot. Puis c'est pas une mauvaise chose. C'est des films de science-fiction qui sont vraiment intéressants à regarder. C'est juste vraiment différent du mood de Star Trek habituel. Mais finissons sur les séries avant de se rendre dans les films, parce qu'il reste vraiment pas...
On parle pas des films.
Oh, non, je sais.
On peut juste mentionner où ce que ça se situe dans la continuité.
Voilà, il y a des films.
All over the place.
Oui, c'est ça.
Il y a des, vraiment, là.
Il y a des films, il y a 13 films en tout, dont 10 dans l'univers original, qui se situent un peu n'importe où à travers ça. Donc, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais sachez qu'il y a plein de films qui sont... à mon avis, pas nécessaire à regarder, mais...
On a un débat.
To differ.
On va mettre on va mettre une petite épingle sur ça-là, puis on va revenir.
Oui, absolument. Ouais. Mais c'est pour moi, c'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas des mauvais fans de Star Trek si vous n'avez pas vu tous les films.
Non, pas du tout. Il y a...
Vous n'êtes pas des mauvais fans de Star Trek si vous n'avez pas vu toutes les séries non plus. Là.
Vous n'êtes pas un mauvais fan de Star Trek.
Jamais.
Tu peux être un immense fan de Star Trek en ayant vu seulement un épisode. C'est pour ça que Megan est à l'émission aujourd'hui.
Puis il y a juste des mauvais fans de Star Wars, ce qu'on a découvert cette année. Mais...
Tu peux être un excellent fan de Star Trek si tu as écouté seulement la série Discovery qui a commencé en 2017.
Ouais.
Donc, en 12 ans après la fin de Enterprise, et Discovery se passe dans l'univers chronologique avant entre Enterprise et The Original Series.
Pardon.
Donc, ça se passe, en fait, ça explore la guerre officielle contre les Klingons, entre la Fédération et les Klingons, et on part dans une espèce de... C'est un monde à part, étant donné que le vaisseau spatial lui-même appartient à une espèce de société secrète à l'intérieur de la Fédération. Vas-y, James, tu me regardes.
Non, continue.
Donc, Discovery est un peu un monde à part, mais s'inscrit énormément en continuité avec les séries de Star Trek. C'est une série qui a énormément de clins d'œil pour les fans aguerris. Sa séquence d'introduction est un hommage formidable à Star Trek. Moi, j'ai pleuré la première fois que je l'ai vu.
Tu t'allais faire tatouer sur le bras.
Je me suis... Exactement. J'étais un peu une méga fan, right?
T'as raison. T'as absolument raison de le faire. Mais on va en parler la semaine prochaine.
Et donc, c'est pour ça que j'essaie de comme dire des trucs super vague sans voler des punchs, mais on en parle la semaine prochaine pendant une émission complète, donc on va avoir le temps de jaser Discovery. Donc ça fait le tour de ce qui se passe dans l'univers de Star Trek en général. C'est quand même un long...
Nous autres, on pensait qu'on était capable de s'en sortir avec 15 minutes. Hein?
On avait dit 10 même.
Ah, 10, wow.
Non, on a échoué un peu.
On est positif. Très,
mais
très,
c'est de ma
positif.
Faute, je m'excuse.
Pas du tout. Je pense que tu as fait une très, très belle présentation. Boris, qu'est-ce que tu en penses?
Ah, ouais, moi, je suis... je tends à ça. Ah, si un jour, je fais une introduction sur Star Trek, j'aimerais ça être à l'égal de...
Tu voudrais que ce soit mon introduction?
Je voudrais que ce soit à la hauteur.
Oh, mon Dieu Seigneur. OK, bon.
J'aime ça. On est rendu à quoi, là?
On est rendu à la partie 2.
Non, on se bat, là.
Là, ben, on se bat plus ou moins. Dans le fond, étant donné qu'il nous reste seulement une vingtaine de minutes et qu'il reste officiellement deux sections que j'avais planifiées, on va les mettre ensemble.
Oh, wow!
La première chose dont je voulais qu'on parle, et on a quand même un petit peu déjà abordé la question, c'est le débat Star Wars contre Star Trek.
Moi, j'ai vraiment une opinion là-dessus.
Mais je suis contente.
Et moi, j'ai grandi en étant un fan de Star Wars. Mm-hmm. Star Trek, c'était quelque chose que je connaissais de loin, qui m'intéressait pas tellement. Puis quand j'ai essayé de m'y intéresser, parce que j'ai toujours aimé la science-fiction, je suis tombé sur le cinquième film qui s'appelle...
Undiscovered Country?
Non, c'est le sixième.
Final Frontier.
Final Frontier, merci. Qui est comme l'un des pires films de Star Trek.
Ben en fait, non, c'est pas que c'est un mauvais film, c'est qu'il est scénarisé par William Shatner.
Et réalisé par Spock, par Leonard Nimoy.
Oui.
Si je me trompe pas.
Mais je veux dire, même si t'es un bon réalisateur, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec un scénario qui vient de William Shatner.
Uh-huh.
Ben en fait, oui, tu peux absolument tout faire quand ton film commence avec de l'escalade.
En fait, tout ça pour dire que ça m'a un peu rébuté, et puis j'ai... Star Trek, c'était des gens qui parlent dans des costumes cheap, avec des effets spéciaux encore plus cheap.
En fait, je me suis trompé, c'est Shatner qui l'a écrit et réalisé.
Oh,
il
n'y
a
non, pas de
Nimoy.
Ah,
ok, Nimoy, il a réalisé le sixième alors. Parce que Nimoy, il en a réalisé un.
Je pense qu'il a réalisé le quatre.
Oh.
Là, ça commence à devenir un peu complexe.
Ok, skippons les films.
Ouais, c'est ça. Enfin, bref, tout ça pour dire que en vieillissant et en redécouvrant, réalisé 4.
Avec les baleines.
Oui.
Les fameuses baleines.
Oui.
Puis les jokes des années 70.
Et New York.
Oh, ok, bon.
As-tu fini de parler du 4?
C'est un peu confus, là, c'est juste comme des mots. Qui New York, baleine, whatever.
C'est tout ce que t'as besoin de savoir, c'est l'essence du film.
Il va falloir quand même qu'on parle des films.
Faut tant de torpedos sur Dieu.
Ah non, c'est vraiment pénible. Ok, donc...
Magicien d'Oz.
Ça, c'est le cinquième, c'est pas le quatrième.
Vous en parlerez dans les autres émissions.
Continue ta jeunesse, Boris.
Enfin bref, en vieillissant, et en moi j'ai découvert Star Trek par les films, donc j'ai comme un attachement émotif avec les films. Et d'ailleurs, le premier film que j'ai écouté, c'est La Colère de Khan, qui, je pense, est comme... la démonstration comme quoi les films de Star Trek peuvent être aussi extraordinaires que les séries, parce que c'est pas seulement un bon film de Star Trek, c'est un excellent film de science-fiction. C'est la preuve qu'un film de science-fiction peut être une très grande et très intéressante réflexion, non seulement sur où on se projette, où on va être, mais aussi individuellement, c'est quoi l'acceptation de la mort, le vieillissement, enfin bref.
The Wrath of Khan, qui est quand même une continuité d'épisodes qui ont été abordés dans la série originale aussi, là, c'est une petite note en passant. Là.
Tout à fait, et pourtant, c'est quand même une bonne introduction à l'univers de Star Trek, selon moi. Ça a marché pour moi, puis hier, je l'ai réécouté avec un de mes amis qui n'a jamais rien vu de Star Trek. Ça a bien marché pour lui aussi, parce qu'il aimait ça. Enfin, tout ça pour dire que j'ai un peu découvert Star Trek comme ça, et j'en suis venu à la conclusion que le débat Star Wars contre Star Trek, ça dépend où est ton cœur.
Moi, je pense que en fait le débat est né parce que les deux commencent par Star, et c'est la seule chose qui les lie.
Non, mais en fait le débat est né parce que oui, peut-être pour ça aussi, parce que c'est des très importantes franchises de science-fiction, dans les deux premières aussi importantes, aussi célèbres, et qu'elles sont très différentes l'une de l'autre, donc il va y avoir nécessairement des gens qui vont être d'un bord, puis des gens qui vont de l'autre, qui va être de l'autre bord. Star Wars, selon moi, t'es pour Star Wars et Star Wars, c'est pour toi si t'as un cœur d'enfant. Parce que Star Wars a été conçu par un gars qui a été bercé par le cinéma dans son enfance et qui a décidé de faire un film en repatchant les films d'aventure sur lesquels il trippait quand il était ado, les films de science-fiction, les serials de space opera qu'il a vu dans les années 20-30, les films de détectives, les films de samouraï, et c'est comme une espèce le Star Wars est venu de cet émerveillement d'enfant. Puis là je parle pas nécessairement de l'âge là,
mais non. Comme on a vu dans l'âge Jedi, mais... tu peux avoir
Star Wars, c'est pas difficile d'accès, c'est pas complexe, ça demande pas une réflexion, c'est juste une aventure. C'est une aventure.
Oui. C'est une grande aventure.
Et oui. L'idée, c'est pas de faire ce que Star Trek essaye de faire. Et l'idée de Star Trek, c'est pas de faire ce que Star Wars essaye de faire.
Pas du tout.
Donc, et on peut aussi avoir un corps d'enfant et un corps d'adulte en
Absolument.
Même temps.
Absolument. Puis moi, c'est ça mon problème. C'est qu'à chaque fois que les gens, tu sais, que je dis que j'aime Star Trek, sont comme, ouais, mais Star Wars, c'est mieux. Je suis comme, c'est pas mieux. J'adore Star Wars. Comme, je suis comme un enfant quand je vais voir Star Wars.
C'est comme comparer des pommes puis des oranges.
J'aime les pommes et les oranges, même si les deux commencent pas par Star.
Faut que tu choisisses.
Non, mais c'est ça, c'est un peu ridicule. Tu sais, je peux avoir envie d'avoir des grosses réflexions philosophiques sur ce que ça veut dire d'être humain, puis sur l'utopie, et aussi avoir le goût de regarder Princess Leia, qui est General.
Merci.
Je m'excuse.
Non.
C'est quand même une générale maintenant, donc faut qu'on rappelle par son
Elle a déjà été une princesse.
On peut
en parler de la jeune princesse Leia et de la.
C'est la même personne. Donc, oui. Carrie Fisher, at large. Ouais. On peut aimer Carrie Fisher. Et William Shatner. Non, n'est-ce pas?
What?
Ben oui,
on peut aimer William Shatner, mais moins Carrie Fisher, mettons.
Ouais, ben là, ça, c'est les pommes des arômes.
Ben on peut aimer William Shatner comme on aime Woody Allen, c'est-à-dire aimer certaines facettes et détester d'autres facettes.
On va skipper Woody Allen, je pense.
Ouais, drôle d'exemple.
Remarque
vraiment.
Pas tant que ça, parce que William Shatner est quand même un peu intense sur Twitter ces temps-ci. Enfin, bref. Ah.
C'est un homme de son temps.
Mais ouais, c'est vrai, c'est intéressant parce que, en fait, je pense que le débat vient à la base, puis comme j'ai dit, ça vient de quelque chose comme le nom est Star pour moi, mais ça vient exactement de c'est quoi tes attentes quand tu regardes de la science-fiction ou quand tu lis de la science-fiction aussi, tu sais, est-ce que tu veux justement aller chercher l'essence de ton cœur d'enfant ou est-ce que tu veux apporter la réflexion plus loin puis avoir une espèce de bocal de poisson dans lequel tu peux voir l'humanité se déployer? C'est pas la même chose.
Non, mais puis Boris, c'est un philosophe aussi, hein? Ça fait que c'est un peu normal qu'il veut voir ce bocal de poisson-là.
Mais on est tous des philosophes parce qu'on est tous des fans de Star Trek.
Oh.
La Star Trek qui va chercher une certaine philosophie en nous, et c'est pour ça qu'on aime ça finalement.
Je pense que la plupart des gens qui aiment Star Trek et qui disent qu'ils n'aiment pas la philo sont des menteurs. Je pense que tu ne peux pas écouter.
Parce qu'ils aiment la philo, mais ils ne savent pas encore que c'est ça.
Ils s'ignorent.
Ben, je connais pas cette personne-là, honnêtement.
Mais non.
Ouais, c'est assez...
Je pense que c'est un peu. Mais
Star Trek, c'est de la philo avec du sugarcoating.
Exactement.
Ouais.
Je pense rapidement à un épisode dans lequel le docteur sur Voyager, en fait, a une famille holographique et doit.
Oui, c'est
fait,
ça, c'est un hologramme, faut le dire.
Oui, exactement, c'est un hologramme. A une famille holographique, puis il doit vivre avec la mort de sa fille. C'est des sujets vraiment lourds, mais c'est tellement satisfaisant d'explorer comment on vit avec le deuil. Puis, tu sais, qu'est-ce qui représente la vraie expérience humaine, tu sais? C'est pas nécessairement le thème central de Star Wars. C'est complètement différent, à mon avis. Puis, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on aborde l'espèce de débat.
Oui, c'est drôle, parce que moi, c'est un débat que j'ignore de règle générale. Ah. C'est très intériorisé chez moi que c'est pas du tout le même truc, c'est pas du tout la même expérience, au final. Et un peu comme Boris a dit, t'en soutiens pas du tout le même truc. Fait que je vais m'allier à ta théorie que c'est juste comme le mot Star.
Mais le débat est vraiment important pour les fans.
Non, j'ai pas l'impression.
Non, mais je veux dire, pas pour toi, fan de Star Trek, mais dans les communautés de fans, parce que c'est très polarisé, mais je suggère de renvoyer ça à une émission future sur les fans de
Star Trek. Mais c'est même... Ouais, OK, c'est bon.
On est rendu à genre 6 émissions sur Star Trek.
Ben, c'est les bulles de temps continu, j'adore ça.
Ouais, 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 comme Marianne, comme on va pousser ça dans un autre registre et tout. Mais tu sais, c'est drôle... Je sais pas ce que vous avez dit, mais c'est vrai que Shatner a la réputation de pas avoir donné de pas vraiment avoir aidé dans les lettres de noblesse pour la télésérie. Mais je repense par exemple à des épisodes comme Charlie X, qui sont dans les premiers épisodes de la première saison, là, où ce qu'il doit expliquer à un nouvel humanoïde, il doit lui expliquer comment se comporter en tant qu'humain. Puis pour moi, c'est vraiment... Bon, je sais pas exactement c'est quoi dans l'ordre, mais il y a vraiment un grand commencement avec cet épisode-là. The Cage est un épisode... Bon, The Cage est le pilote qui n'a pas... William Shatner comme personnage principal, c'est pas du tout Kirk. Antonio va venir nous en parler dans un autre épisode. Mais les premiers épisodes n'ont pas tant de lourdeur philosophique jusqu'à Charlie X. À Charlie X, on arrive vraiment au moment où Shatner doit... Kirk et Shatner, mais bon, c'est des personnalités...
C'est la même personne.
Ils sont un peu interchangeables à ce point-ci. Doit totalement confronter, je sais pas, juste un mineur, là, Charlie X, mais doit lui dire, non, tu fais pas ça. Puis là, lui expliquer pourquoi qu'on fait pas ça. Puis il y a, comme vous parlez de philosophie puis de sugarcoating, et suite, il y a vraiment comme un moment où Kirk devient la personne qui nous accompagne dans ce récit philosophique-là. Puis c'est... Le même type de dynamique perdure dans les téléséries. On est toujours accompagné. Les personnages sont des personnages tridimensionnels et ils ont leur histoire et tout, mais ce sont, à mon avis, des idéologies ou des façons de concevoir le monde qu'on utilise comme véhicule. On suit une forme d'existentialisme avec l'hologramme. Quand on est avec ce docteur-là, on se rend compte que les paramètres de l'humanité sont là. C'est vraiment... de l'humanisme, c'est l'humanisme qu'on aborde, mais il faut qu'on regarde trois essences de l'humanisme à ce point-ci. Puis c'est tout ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de misère avec... Il y a des trucs dans Star Trek qui fonctionnent moins bien que d'autres. Je pense qu'il y a des aspects de l'humanité qu'on gère moins que d'autres et qu'on se reconnaît moins. Donc c'est des personnages qui, inévitablement, résonnent moins avec nous, ils sont plus faibles, mais... Dans le grand schéma des choses, il n'y en a pas de mauvais épisodes.
Il y a pas de mauvais personnages. Moi, je pense qu'il y a des épisodes qui sont mal écrits.
Oui, mais ça, c'est ça. Mais ça, ouais, ça, c'est la forme. Ouais.
Non, je parle au niveau de la forme, mais au niveau de la réflexion, au niveau de justement de la progression, de la réflexion, en effet, je suis d'accord, il n'y a pas de mauvais épisodes de Star Trek. C'est vraiment au niveau de la forme. Là. Des fois, il y a des trucs un peu aberrants qui sont écrits, mais tu sais, c'est des choses qui arrivent. Il faut qu'il y en ait sur une trentaine de saisons.
C'est ça, c'est pratiquement impossible d'avoir...
Sur 793 heures, tu sais, à un moment donné, ça en prend des trucs un peu moins intéressants. Là. Mais non, en effet, je suis d'accord avec toi. Puis c'est une réflexion qui se poursuit à travers toutes les séries. Puis je pense qu'il n'est jamais de trop, qu'il n'est jamais terminé. Probablement parce qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire d'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, guys? Fait que je pense que c'est pour ça que peut-être la réflexion autour des séries de Star Trek est en fait interminable et jamais dépassée. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je garoche ça.
Ben, je suis d'accord. Il y a un épisode qui m'a vraiment marqué quand j'ai écouté Next Generation, c'est iBorg, où il trouve un Borg qui a été déconnecté de la conscience collective et soudain...
Q.
Et soudain, il se demande qu'est-ce qu'ils font avec, est-ce qu'ils l'abandonnent ou pas. Donc, il faut qu'il détermine s'il a une conscience ou s'il fait encore partie de l'ennemi. Et là, ça devient finalement une espèce de débat sur qu'est-ce qui fait un individu et qu'est-ce qui fait une personne. Et c'est pas possible qu'un jour on se pose cette question-là dans la vie pratique. Mais c'est vraiment une réflexion très intéressante.
Ben, la même chose avec l'épisode de la saison 2 dans lequel il essaie de déterminer si Data est une personne à part entière ou s'il est en fait juste la technologie qui appartient à Starfleet. Donc c'est un épisode dans lequel il se passe virtuellement rien. C'est un procès pendant 45 minutes. Où...
Virtuellement.
Non mais il se passe... En tout cas. Donc, c'est ça, c'est vraiment juste des gens qui argumentent sur c'est, qu'est-ce que c'est d'avoir une conscience, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une âme, est-ce qu'à partir du moment où tu as une conscience de soi, c'est assez pour être considéré humain? Enfin bref, c'est comme quand je dis qu'il se passe rien dans Star Trek, c'est ce genre de truc-là, c'est que souvent, c'est des discussions, c'est essayer de mettre en image un peu ces concepts philosophiques-là qui remontent au tout début de la pensée, même en Grèce ancienne, et probablement avant, même si on n'a pas vraiment de traces de tout ça. Et donc, c'est que c'est beaucoup plus de réflexion que d'action dans beaucoup de cas. Et c'est des questions qui n'ont pas de réponse aussi. Les épisodes se finissent généralement en suspens. Voyager, tous les épisodes se terminent sur une espèce de bittersweet moment où il n'y a pas vraiment... C'est vraiment pas positif, c'est vraiment pas négatif, mais c'est un peu malaisant. Parce que c'est un peu ça. L'idée aussi de pousser une réflexion, c'est de nous rendre mal à l'aise à certains moments, puis de nous pousser à justement vivre avec ce malaise-là, puis d'essayer d'en tirer des conclusions après ça. Moi, je pense que les plus beaux moments que j'ai eus en écoutant Voyager, c'est quand je finis les épisodes, puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis comment je peux comprendre ma réalité après avoir vu cette représentation-là d'un concept comme celui-là? Voilà, là, c'est un peu...
Non, c'est la conclusion idéale à cette émission-là, parce qu'il n'y a rien de bittersweet à propos de la fin de cette émission-là. C'était, bien au contraire, une espèce de miraculé. C'était extraordinaire de pouvoir vous assembler autour de la table. Je suis vraiment, vraiment content de tout ce que j'ai entendu de vous. Vous êtes de faites de poussière d'étoiles. C'est incroyable.
T'es vraiment sweet. Mais je suis aussi vraiment contente, en fait, qu'on ait décidé de faire d'autres émissions pour explorer plus en profondeur, parce que...
J'essayais de pas dire ou de pas mettre en évidence le fait qu'on a vu le temps passer trop rapidement.
Ah, ça a aucun
sens.
Et
qu'on a comme, ah oui, c'est vrai, ce qu'on vient de faire en une heure, on pensait qu'on était capable de le faire en 20 minutes. Mmh. On avait une arrogance assez extraordinaire en entrant dans l'émission.
Ça a aucun sens.
En même temps, pour ceux qui peuvent être un peu frustrés, là, moi, je suis ici pour ça, là, on va faire, c'est une saga qui commence. On va partir explorer dans l'espace, mais tous les aspects
on
de Star Trek.
On commence un 5-year mission.
Ouais.
Oh, wow. Mmh.
Idéalement pas 5 ans, mais...
Je suis correct à faire des émissions ponctuelles sur Star Trek
pour les cinq prochaines
années.
C'est bon.
Vous savez que moi, sur le long terme, je n'ai pas de problème avec ça. Et pour nous envoyer... mais sérieux, merci beaucoup, Roxane, merci Boris et Megan. On va aller écouter William Shatner avec son interprétation de Common People.
Oh, bonheur.
Quand que ça va vouloir partir.
Et...
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand.
She just smiled and held my hand. Supplies a barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here.
You'll never live like common people. You'll never.
never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do.